Revue presse de l'April, semaine 12, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, parle-nous du sommaire.
Alors, une belle revue de presse. On a en tout 30 articles, dont 8 principaux. Donc, on va vous parler de Richard Stallman en balade dans le Poitou-Charentes, les DRM, les DRM et les anti-DRM, la traduction en anglais de la directive ERO, dont on aime beaucoup parler, les services publics et l'école. Au Canada, ça discute et ça rediscute sur le contrat de logiciel propriétaire, les défis du logiciel libre du point de vue d'un pôle de compétitivité et, pour finir, une grosse nouvelle qui nous vient en direction du gouvernement britannique.
Nouvelle République, Richard Stallman, un génie à l'air libre, un article d'Hélène Echasse-Royau. Donc ça revient sur la présence de Richard Stallman à Niort, on en avait parlé plusieurs fois.
Oui, comme quoi ça avait beaucoup étonné les étudiants qui l'avaient invité.
Et oui, 2300 personnes dans la salle,
c'est considérable.
Quand il vient à Paris, il est loin de faire autant de monde, donc c'est vraiment un très très grand succès.
Mais il vient très souvent à Paris, je sais qu'avec ma femme on l'avait invité à la Villette, il y avait que 150 personnes, donc là c'est vraiment énorme, et il a fait un petit tour aussi à Poitiers. Donc là il a discuté de quoi exactement?
Il est revenu sur son thème habituel, en parlant tout particulièrement de surveillance, en taclant notamment les téléphones portables, et donc il est revenu également sur cette question de faire cet arbitrage entre du confort et cette question de liberté. Donc pour lui il n'y a pas d'arbitrage à faire, hein. On ne peut pas mettre sa liberté de côté. Moi justement, alors il y a une citation que je trouve un petit peu contestable pour le coup, puisqu'il dit: quels sont les buts sociaux des sociétés numériques, il faut prendre en compte des choses plus profondes que l'emploi, perdre des droits de l'homme est bien pire.
Oui.
Et moi, je trouve ça un peu simpliste dans le sens où la liberté, évidemment, c'est essentiel, mais on a comme des contingences matérielles. Et la liberté, quand on n'a rien à manger et pas de toit sur la tête, ça s'appelle pas liberté, on est esclave de la misère.
Mais tu sais bien que par ailleurs, Stallman, son credo, c'est de parler d'idées, d'idéaux, et qu'il met ça en avant avant tout le reste. Moi, je reprends une autre citation qui me paraît pas mal. C'est simple, soit c'est l'utilisateur qui a le contrôle du programme, soit c'est le programme qui a le contrôle, et c'est injuste. Donc, je crois que c'était son discours et sa présentation sur la société numérique. Il en a plusieurs. Si vous voulez l'inviter, je vous le recommande, parce que c'est un gars qui est pas toujours facile, dans sa gestion, mais qui a vraiment des choses intéressantes et il motive les foules. Vous aurez un gros succès avec tout ça. Et puis, c'est un personnage historique maintenant.
PC Impact, DRM, brevet logiciel, etc., accusé d'empêcher la recherche informatique. Un article de Marc Reiss.
Ça reprend un article précédent, parce qu'effectivement, en gros, tout ça, ça bloque les innovations, les évolutions, en s'assurant que les entreprises, notamment, ne puissent pas sortir du cadre.
On l'a évoqué la semaine dernière avec le HTML5 et les DRM à l'intérieur, donc
exactement.
Cory Doctorow expliquait en quoi c'était une mauvaise chose. Donc là, c'est pas lié au HTML5.
Le débat continue, hein, mais je l'ai mis en article secondaire.
Et donc là, par contre, c'est le Centre d'analyse stratégique du gouvernement qui prend cette position, donc ça émane du gouvernement, donc c'est très intéressant qu'ils arrivent à ces conclusions-là.
Et oui, des gros pontes, hein. Il n'y a rien de tel que quand les grandes têtes se réunissent et sortent des recherches intéressantes qui vont dans notre sens.
Voilà, donc ils expliquent que les DRM, puisqu'on n'a pas le droit de les contourner en vertu de la loi d'AFSI qui avait été votée en 2006, eh ben, ça empêche de faire toute une série de recherches sur la question de la sécurité.
Y compris, oui, parce que s'il y a un gros problème quelque part, vous savez que quelqu'un vous a pénétré, par exemple, en passant par une faille, eh bien non, à cause des DRM, vous ne pouvez pas les jeter un œil.
Oui, sachant que le DRM en lui-même peut causer cette faille.
De toute
façon, on n'a pas le droit de faire de rétro-ingénierie, c'est-à-dire mettre un logiciel propriétaire dont on n'a pas le code source, regarder comment il se comporte pour comprendre comment il fonctionne. Tout ça, c'est illégal. Et donc, il cite également les brevets logiciels en rappelant que l'Office européen des brevets en octroie alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Et tout ça pour rappeler que ça empêche les chercheurs de chercher librement et donc ça met en péril des activités pointues et vraiment importantes qui sont de plus en plus sensibles à des attaques informatiques de pointe.
Et oui, on a parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'outils comme Stuxnet par exemple. Eh bien avec les DRM, en théorie, vous n'auriez pas le droit d'aller regarder comment ça marche et d'essayer de vous défendre. C'est ridicule, on peut imaginer qu'ils vont nous pondre une loi qui autorise dans le cadre de la sécurité à les contourner.
Ce serait un minimum, mais bon, ça montre, en tout cas l'argumentaire, montre bien à quel point on se retrouve enfermé et dépendant des éditeurs de logiciels propriétaires. Privateur, pour le coup, là, c'est le terme que Stallman préfère est tout à fait adapté dans ce cadre-là. Donc même si leur propos n'est pas de détendre ça à tout le monde, bien nous on dit, ok, si c'est valable pour la recherche, pourquoi ce serait pas valable pour le grand public et pourquoi nous on pourrait se faire enfermer par ces gens-là. Actualité.com, protection livre, outil de lutte anti-piratage du SNE ou anti-DRM. Donc c'est un article de Nicolas Gary.
Et oui, Defective by Design, je vois ça sur la page, qu'est-ce qui s'est passé? Leur site web a eu un souci.
Alors c'est un petit gag qui arrive aux gens qui ne prennent pas cette précaution. C'était un site qui devait sensibiliser contre le piratage des e-books et il semblerait qu'il n'ait pas pris les noms de domaine ou en tout cas tous les noms de domaine proches. Et
non, je crois bien que c'est le nom de domaine de lui-même, protectionlibre.com.
Ils ont un peu traîné ou en tout cas ils l'ont annoncé avant de le prendre. Et donc il y a des gens qui ont un site où on peut trouver des e-books en téléchargement qui ont pris le nom de domaine et le renvoient vers Defective by Design qui est la campagne de la FSF contre les DRM.
Donc beaucoup, c'est ce ne sera pas la première fois ni la dernière, j'imagine bien. C'est-à-dire on communique, on donne un nom de domaine, et puis derrière, des petits malins arrivent avant vous, les chopent. Chose amusante, les gars qui sont derrière tout ça, donc le SNE, le syndicat national de l'édition, ont dit non, c'était pas le nom de domaine qu'on avait prévu dès le début. Nous, c'est portailprotectionlivre.com. Vous comprenez, c'est une erreur de notre communication. Ils ont communiqué sur le mauvais nom. Non, c'était bien prévu dès le début qu'on prenne celui-là. On se marre, hein, parce que globalement, c'est probablement bêtises.
On a du mal à y croire. Mais bon, le gouvernement s'était fait avoir une ou deux fois sur les trucs de Dafsti, Adopi, etc. Ils sont également tombés, enfin c'est pas le gouvernement d'ailleurs, hein, directement, c'était même leurs agences de com, étaient tombés dans le panneau aussi plusieurs fois. Donc c'est toujours très rigolo, surtout quand on sait combien ils payent ces agences-là. Un article en anglais, je vais te laisser le lire, parce que tu es meilleur en anglais que moi.
Join up, April publishes English translation of French free software policy. Désolé pour mon anglais, c'est pas facile. Plus aisé à lire, et donc ils reviennent, alors c'est Guiche Hélénius, lui non plus il aide pas.
Bravo.
Donc ils reviennent sur la directive ERO, la circulaire ERO, qu'on adore, mais pour le coup qui a été diffusée un peu partout dans le monde grâce à l'April.
Voilà, donc JoinUp c'est un site de la Commission européenne, hein, donc c'est pas n'importe quoi, et donc l'April a travaillé là-dessus, pas moi. Vous avez donc travaillé à traduire la circulaire ERO en anglais afin que les personnes hors de France puissent voir ce qui se passe en France.
Donc bon boulot, parce que je suis assez fier. On a galéré, il y avait un terme souche logicielle dont on n'a pas trouvé l'équivalent en anglais, et personne d'autre, hein, y compris des experts.
Ça favorise les échanges, la communication de ce qui se fait chez nous et essayer de travailler hors des frontières françaises.
Donc si vous êtes anglophone, si vous en connaissez, n'hésitez pas, vous pouvez toujours leur envoyer ce type de lien, permet de diffuser, c'est vraiment pas mal.
ZDNet.fr, école, le service public du numérique éducatif, adopté par l'Assemblée nationale, un article d'Antoine Duvauchel.
Et oui, l'école, l'éducation, on revient dessus, parce qu'on se plaignait du B2I, du C2I, qui sont des trucs un peu bizarres, mais là, ça évolue, il semblerait. Le numérique est en train de changer d'échelle, et ils sont en train de s'y plonger mieux, en proposant un programme scolaire avec du numérique dedans.
Oui, alors c'est une loi qui touche sur l'éducation dans plein de domaines différents, dont le numérique était une des priorités mises en avant par le gouvernement, et donc c'est passé à l'Assemblée nationale, ça l'a passé au Sénat, et l'article dit que vu l'équilibre des forces, ça devrait passer en l'état ou en tout cas sous une forme très proche, donc il y a assez peu d'enjeux au niveau législatif. Ceci dit, il dit que le texte en lui-même, il est quand même pas très orienté, puisqu'en fait il peut pas décider des programmes. Donc il va y avoir des moyens évidemment pour équiper les écoles, etc.
Mais ça, c'est les régions ou les départements qui s'en occupent. Eux, l'État, lui, s'occupe surtout du contenu.
Oui, donc notamment avec un travail sur les programmes, hein, ce qui inquiète notamment les députés d'opposition qui disent que y a comme des sociétés privées qui ont investi pour faire des manuels et des choses comme ça.
En espérant que c'est des manuels libres, non, j'en doute.
On en doute, mais qu'en tout cas, si l'éducation nationale commence à faire ses propres manuels, tous ces gens-là vont se retrouver le bec dans l'eau. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il dit, c'est que le programme, c'est pas la loi qui le décide, c'est une commission spécifique.
Je rajouterais, ce qu'il est prévu dans toutes ces formes d'éducation, c'est qu'ils vont continuer à promouvoir le droit d'auteur, éventuellement les problèmes de DRM, justement, pour que nos chères petites têtes blondes, directement, elles soient formatées comme il faut et qu'elles suivent les lois.
Le truc, c'est qu'on sait pas, c'est qu'il y a des grandes lignes, des très grandes lignes, que c'est finalement le programme qui va faire la différence et que la bataille elle va se faire plus tard au niveau de cette commission et de voir qui sera dedans et qu'est-ce qui va en ressortir au niveau des programmes. Sachant que l'April est cité en fin d'article, puisqu'on monte pas mal au créneau, puisqu'en fait Microsoft est très présent dans le monde de l'éducation avec des moyens importants et vraiment avec cette idée de mettre du logiciel propriétaire du Microsoft très tôt pour les enfants pour qu'ils s'habituent.
En tout cas, ils font un gros travail pour qu'on installe leur soft et oui, hein, là aussi, il faut implanter dans les têtes dès le départ. C'est mieux pour ensuite pouvoir vendre leur soupe.
Voilà, donc c'est une affaire à suivre pour voir cette commission des programmes, comment elle va être constituée, qu'est-ce qui va en sortir. Radio-Canada, un centre d'expertise en logiciel libre, met un contrat à Microsoft, un article de la rédaction. C'est un petit peu la conclusion d'une affaire québécoise qu'on suit de loin en loin depuis plus d'un an maintenant, peut-être 2 ans même.
Et qui fait beaucoup jaser, il y a eu beaucoup de remue-ménage, et cette semaine notamment, ils en ont énormément parlé. Il y a quasiment 10 articles dans la revue de presse en article secondaire.
Donc on rappelle, le gouvernement québécois avait besoin besoin de faire évoluer ces machines puisque Windows XP arrive en fin de vie, en tout cas ne sera plus maintenu dans quelques mois.
Et il est question d'un renouvellement à hauteur de quoi, 1 milliard, 1,4 milliard de dollars, hein, donc c'est vraiment pas...
canadien.
C'est vraiment pas rien.
Et donc voilà, Cyril Béraud et tous ses camarades, qui donc lui un chef d'entreprise qui fait travaille dans le libre et également président d'une association locale, fait le forcing depuis 2 ans en expliquant qu'il y a quand même des tas d'économies à faire et des tas d'avantages à passer au libre, que le gouvernement canadien doit le faire. Et là, ils arrivent au pied du mur. Et en disant, bah, on ne peut pas changer radicalement, ce qui est vrai, toute notre infrastructure en 3 mois, ce n'est pas possible, donc il faut qu'on migre.
Sachant que là, le gouvernement, c'était l'opposition auparavant, et qu'ils étaient d'accord pour passer au logiciel libre, ils taclaient pas mal les instances précédentes. Mais là, bah, oui, effectivement, hein, on ne change pas du jour au lendemain. Donc, pour le coup, ils offrent peut-être une petite cacahuète de côté. Ils vont monter un centre d'expertise, dont il est question dans cet article.
Avec une vingtaine de personnes quand même, hein, ce qui est une...
Oui, mais c'est structure. Rien en comparaison des centres d'achat et des autres centres techniques.
4 milliards évidemment de budget, c'est peanuts.
Donc c'est de ça dont se plaint Béraud, hein, notamment. Mais par ailleurs, bon, bah, on faut voir ce qu'il y a. Et à un moment donné, ils sont en faveur du logiciel libre. C'est juste qu'il faudrait leur envoyer la directive ERO, hein, traduite ou en français. Ils pourront regarder
sur,
ça.
Sur cette simplicité de migration, moi j'attends de voir les équipes du gouvernement québécois avec la dernière version de Microsoft Office qui change radicalement au niveau de l'interface. Et je pense que la transition ne va pas se faire sans douleur ni frais de formation. Silicone.fr, Systématique, présente les 3 défis du logiciel libre, un article de David Feuget. Donc Systématique, c'est quoi ?
Un pôle de compétitivité, et donc des entreprises, et chapeauté par le gouvernement, il me semble ?
Oui, bon, c'est des réunions où on se rencontre, où on essaye de monter des projets innovants avec quelques budgets fournis par l'État. Et donc celui-là, Systématique, parle de logiciel libre.
Donc là, ce que je vois d'intéressant, et il me semble que c'est aussi ce qui t'intéresse, c'est les 3 enjeux là qui sont distingués. Donc.
Voilà, qualité logicielle, déluge de données, donc le big data, etc., l'open data et l'après-PC. Donc voilà, bon, c'est les sujets. On voit aussi que dans Systématique, c'est quand même pas mal d'entreprises industrielles qui sont assez centrées sur le plateau de Saclay où il y a beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises.
Ça parle de chiffres, hein, il y a quelques diagrammes. Allez jeter un œil, il y a des questions de marché notamment. Donc ça peut être intéressant du point de vue de ces évolutions. Ce qui est pas mal, c'est de voir qu'ils se projettent dans l'avenir et il se projette dans l'avenir avec le logiciel libre.
Le MagIT, le gouvernement britannique, invite officiellement à privilégier les logiciels open source, un article de Cyril Chausson.
Ouais, alors là, ça, c'est une grosse nouvelle, énorme.
Et oui, donc la circulaire ERO, elle fait petit joueur à côté. Et donc là, le gouvernement britannique a publié des décisions en disant qu'il fallait favoriser le logiciel libre et pas simplement dire que c'était bien, etc. Il y a vraiment un choix. Prenez du libre plutôt que du propriétaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans les arguments qu'ils avancent, c'est pas juste une question de coût. On l'a beaucoup entendu, par exemple, dans le cas québécois. C'est également vraiment l'idée d'avoir une vraie politique du libre en incitant les administrations à contribuer à du code ouvert. Donc vraiment, derrière, il y a vraiment une prise en main et vraiment l'envie de faire du libre.
Et si elles doivent continuer à faire du propriétaire, du privateur, il faut s'assurer que c'est standard, interopérable, et éviter d'être bloqué avec un seul fournisseur. Les choses d'un sens commun, donc c'est bien vu. Je remarque, eh bien, tout ça c'est peut-être dans la suite de l'Italie notamment, qui a fait le même genre de choix. Donc on applaudit, donc Italie, France, Angleterre, il y en a peut-être d'autres qui vont pouvoir s'inspirer de tout ça. On applaudit.
Oui, bravo.
Bravo. Bon, sur ce, à la semaine prochaine.
Oui, salut Manu, au revoir tout le monde.